Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Avant d'attaquer l'épisode d'aujourd'hui, et pour bien débuter l'année, Audible, la plateforme d'Amazon, m'a proposé de créer un épisode exclusif sur mes vœux 2018. Donc la semaine prochaine, vous pourrez me retrouver sur Audible avec Joséphine Goub, la CEO de TechFoodgies, pour parler d'engagement social, puisque c'est mon vœu pour 2018. Je vous mettrai tous les liens, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux. Mais pour le moment, commençons un nouvel épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Thibaut de Saint-Maurice. Thibaut de Saint-Maurice, il est professeur de philosophie.
Toujours, ouais.
Toujours. Il est déjà venu sur ce podcast. On avait parlé de la dépendance au smartphone à l'époque. Et là, aujourd'hui, j'ai fait un podcast avec Maï sur le marketing et le mensonge. Mais j'aimerais avoir un aspect philosophique sur le désir et le mensonge. Parce que je pense qu'il y a cette idée que le marketing, c'est mal, ou que la communication ou la pub, c'est mal, qu'on manipule les gens. Et finalement, toi, tu as un point de vue philosophique que je trouve hyper intéressant sur ce sujet, autour de la manipulation et du désir. Alors, je ne sais pas par où commencer précisément, mais peut-être commencer par le désir chez l'humain.
Oui, alors en fait c'est un peu un sujet, une sorte de classique du programme de philosophie en terminale, mais effectivement le désir c'est une notion centrale. En fait, il y a une phrase que j'aime bien d'un philosophe qui s'appelle Gaston Bachelard qui dit « L'homme est une création du désir et non pas du besoin ». C'est-à-dire que si on raisonne juste en termes de besoins physiologiques, en réalité l'humanité elle n'est pas très très différente de bon nombre d'autres espèces animales.
On a très peu de besoins finalement, à part manger, boire,
oui,
dormir.
Oui, et qui sont finalement très peu spécifiques ou distinctifs. Mm-hmm. Voilà. En revanche, si on réfléchit en termes de désir, donc de cette capacité finalement à s'arracher d'une sorte de condition naturelle, physiologique, et d'aller au-delà, eh bien c'est là où il y a quelque chose de spécifique, d'humain, de proprement humain qui va se dessiner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est hyper important, par exemple, quand la philosophie commence son histoire en Occident, donc la philosophie grecque, voilà, le désir est un sujet central. Et les fameuses sagesses antiques, c'est principalement, en gros, de l'outillage pour gérer, en fait, ces désirs, les connaître, distinguer ceux qui vont nous rendre malheureux, à coup sûr, ceux qui pourraient nous rendre malheureux ou heureux, et ceux qui nous rendront heureux à coup sûr. Épicure, par exemple, fait une distinction des désirs entre les désirs vains, ce qu'il appelle les désirs vains, et puis les désirs, bon, qu'il appelle naturels, mais qui sont en fait ceux qui vont pouvoir nous rendre heureux. C'est encore quelque chose qui est tout à fait pertinent. Donc il y a cette dimension centrale dans notre humanité, entre donc humanité et désir. Après, il y a une deuxième chose, et ça, c'est des problématiques qui apparaissent plutôt à partir du XVIIe siècle, et puis après XVIIIe et puis XIXe, avec des gens comme alors Spinoza, par exemple, dès le XVIIe, et puis des gens comme Freud et Nietzsche à la fin du XIXe. Ouais. C'est la révélation que, en fait, notre existence, c'est pas une sorte de ligne droite, c'est pas un long fleuve tranquille, et surtout que nous ne sommes pas que des êtres rationnels. Mmh. C'est la révélation que, en fait, notre vie, c'est une sorte de pulsation. C'est une pulsation au rythme, justement, de nos désirs. Par exemple, il y a un concept qu'on connaît chez Nietzsche qui s'appelle la volonté de puissance. eh ben, c'est en fait la volonté de puissance, c'est la définition même de la vie. Ça ne veut pas dire que c'est la volonté d'être le plus fort ou de dominer tout le monde. En fait, la vie, elle est volonté de puissance. Et la façon la plus simple de le comprendre, c'est de dire que la vie, c'est le désir. En fait, vivre, c'est désirer. C'est désirer de la nouveauté, de la rencontre, de la surprise, etc. Voilà. C'est le moteur même, en fait, de l'existence. Et puis, Freud, bah, j'en dis un mot, mais Freud est la révélation de tout un nouveau territoire de désir, qui sont les désirs inconscients, ce que Freud appelle les pulsions. Donc, en fait, on découvre une humanité qui est nettement plus tissée de désir, finalement, que de rationalité, enfin, je veux dire, l'agent rationnel, c'est une invention de l'économie, mais voilà, c'est
parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, fiable. Tu vois, on est dans une société où on est dans une, on a accès à tout, et donc il y a un vrai mouvement de, mais de quoi j'ai vraiment besoin? Et donc, tu vois, les gens se posent vachement de questions sur le bonheur, en particulier, en se disant, mais en fait, tous ces trucs qu'on essaye de nous vendre, on n'en a pas besoin. Et finalement, je vais essayer de m'extraire de ça. Ou par exemple, c'est vrai que quand tu connais des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, par exemple, ben, ils ont beaucoup moins de désir nécessairement, parce qu'ils peuvent, ils accèdent à tout. Donc, t'as moins de désir et du coup, ils sont moins heureux. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de désir et de bonheur. Comment les gens, ils jugulent ça, en fait? Comment tu gères ça en tant qu'humain?
En fait, je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que ce qui est fondamental, c'est d'apprendre à distinguer. En fait, on est souvent victime on prend souvent, c'est l'expression commune, ces désirs pour la réalité. Voilà, on est souvent victime de ces désirs ou victime de ce à quoi ils nous font aspirer. Je pense que ce qui est essentiel, et en tout cas pour moi c'est un geste philosophique essentiel, c'est la distinction. Par exemple, distinguer comme on vient de le faire entre désir et besoin. Et puis distinguer entre bien-être et bonheur. Voilà. Et effectivement, pour être heureux, on n'a pas besoin de grand-chose. On a tous fait ces expériences où on est avec sa famille ou avec ses amis, où on est à la fin d'un dîner, pas extraordinaire, mais tout va bien, tout s'est bien passé, on est avec ses proches, et voilà. Ou la naissance d'un enfant, qui est quand même une expérience extrêmement banale du point de vue de l'humanité, quand même, et en même temps toujours singulière du point de vue individuel.
Certainement.
Mais voilà quelque chose qui suffit à nous rendre heureux sans avoir des milliards de désirs à satisfaire. Donc, on peut distinguer bonheur et bien-être. Mais la vraie question, c'est de se dire, effectivement, aujourd'hui, on a une société de consommation qui nous donne des injonctions, en fait, non pas tellement à être heureux, ça va plutôt vers le développement personnel, etc. Mais du point de vue de la consommation, ça donne des injonctions à vivre confortablement, en fait. Une sorte d'injonction au confort. Sachant que le confort, c'est aussi avoir le truc de dernier cri, c'est, voilà. Bon, être super connecté, etc.
Avoir le wifi.
Vivre dans un confort matériel. Bon. Alors, là, c'est intéressant parce que on peut d'emblée considérer que, bah, c'est une illusion, que forcément on va se planter, etc. Et en même temps, on peut simplement en faire l'occasion de se demander, ben oui, après tout, je veux dire, de quoi j'ai besoin pour assurer ce confort-là? Pourquoi ça serait mal de me soucier de mon bien-être? Et oui, si je veux dire, si je peux être installé plus confortablement, si je peux avoir une vie plus douce, si je peux aussi ressentir des sensations agréables et avoir du plaisir dans la consommation d'objets, pourquoi non? Là où ça devient compliqué, c'est quand il y a une confusion entre bien-être et bonheur, par exemple. Mais à mon avis, tant qu'on est dans la conscience de cette distinction, c'est difficile de se sentir manipulé.
Ouais. Tant qu'à distinguer, on peut aussi distinguer plaisir et bonheur, je crois.
Absolument, absolument. Et là encore, il y a une suspicion un peu, enfin, depuis très longtemps, et puis c'est un peu rajouté aussi par